les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien dans les ondes buissonnières et aujourd'hui un peu de vie locale drômoise. Le jeudi 21 octobre 2021 s'est tenue à la MJC, Centre Social de Tain-l'Hermitage, une journée de rencontres adressée aux acteurs et actrices auxiliaires de vie scolaire de la région. RDIWA, la radio du DIWA, a réalisé un reportage sur la journée départementale développement durable pour la Fédération des centres sociaux et la CAF. Cette émission est en diffusion sur plusieurs radios associatives drômoises, dont Radio Saint-Fé aujourd'hui. Ce reportage retranscrit donc l'ambiance de cette journée, ponctuée d'ateliers et de discussions. Bonne écoute à toutes et à tous.
Déambulation.
Karine ?
Oui ?
Où est-ce qu'on est ?
Alors, nous sommes à l'espace Simone Veil, à la MJC Centre Social de Tain-l'Hermitage. Et nous sommes là pour la journée du développement durable proposée par la Fédération des centres sociaux et la CAF aux acteurs de la vie sociale du département de la Drôme.
Une première question qui nous a sauté aux yeux tout de suite. Alors je la lis, transition écologique et sociale, rupture écologique, plusieurs appellations. Peut-on encore parler de développement durable ? Quelle importance dans le choix des mots ?
Non, on ne peut pas. Voilà, il vaut mieux, je pense, éviter de parler de développement durable parce que développement, ça pose quand même tout un tas de questions et de problèmes. Et puis même, le mot est devenu vraiment le. Enfin, c'est. En fait, quand vous disiez développement durable quelque part, la plupart du temps, c'est une opération de greenwashing, quoi. Nous, on parle de. On essaye dans ce bouquin aussi d'introduire l'idée de planification qui est elle-même problématique. On parle de planification par en bas, quoi. Il faut bien en tout cas trouver un mot pour dire. Alors le problème de la transition, c'est pareil, c'est que c'est devenu une sorte de mot tarte à la crème, comme le développement durable, qu'on met ça à toutes les sauces. Et que, en plus, l'avantage de parler de transition, c'est qu'on peut en parler non plus comme un processus, mais comme un état, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de début ni de fin, donc on est dans une espèce d'entre-deux dans lequel personne ne fait rien, mais dit ah, on est en transition. Donc trouver quelque chose d'autre, c'est pas mal. Moi, je trouve que résilience, c'est un peu compliqué parce que. D'abord, toutes les notions qui viennent de l'univers de la psychologie, quand on les fait passer dans la société et dans le domaine des transformations, ça pose tout un tas de problèmes. Donc voilà, je dirais peut-être planification par en bas, quelque chose comme ça. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas le terrain central de lutte, quoi. C'est plus, il faut être vigilant sur ces mots-là.
Est-ce que, pour commencer, tu peux me dire qui tu es, toi ?
Je m'appelle Cyril Blanc, je suis conseiller en action sociale pour la CAF de la Drôme et je suis référent de la thématique animation de la vie sociale, c'est-à-dire que ça rassemble toutes les structures agréées, centres sociaux et espaces de vie sociale. Donc j'ai co-organisé la journée avec la Fédération des centres sociaux autour de la thématique.
Est-ce que tu peux un peu m'expliquer dans les détails en quoi consiste cette journée et à qui elle est adressée ?
Elle s'adresse principalement aux acteurs de ces structures, ces centres sociaux et espaces de vie sociale, et aussi à leurs partenaires. On a quelques élus locaux et des bénévoles aussi, puisque beaucoup de structures sont en association. Donc la journée s'adresse à eux. L'idée, c'est vraiment de les accompagner dans les démarches autour de la transition écologique et du développement durable. On s'est aperçu, par le biais d'une subvention spécifique, que beaucoup, beaucoup de structures, quasiment la totalité des structures, portent des actions autour de ces dimensions. autour des enjeux du développement durable, et on a voulu aller plus loin dans l'accompagnement. Donc on a mis en place depuis 2 ans un groupe moteur sur le département avec des structures et la fédération des centres sociaux. C'est ce qui a permis l'arrivée d'Aurélie Falampe, qui est chargée de mission et qui donc, dont le rôle a d'abord été de faire un état des lieux de toutes les démarches qui se faisaient dans les structures, puis ensuite d'accompagner les structures qui voulaient encore monter en charge, monter en compétence sur ces questions-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit qu'on ferait aussi une journée réseau pour que les acteurs se croisent, pour avoir des informations un peu innovantes et du coup creuser un peu les initiatives et donner envie d'aller encore plus loin dans la prise en compte de ces démarches. Je suis ravi parce que c'est une thématique super intéressante avec des acteurs hyper dynamiques, toujours très actifs et toujours prêts à se saisir des nouvelles problématiques et à trouver des réponses innovantes. Dès qu'il y a une problématique qui émerge, on sent qu'ils savent s'en saisir et répondre, donc c'est super intéressant.
Est-ce que tu pourrais me donner quelques petits exemples de réponses assez innovantes que tu as pu entendre là dans la journée, ou que tu connais d'acteurs peut-être que tu suis ou dont tu sais les champs d'action?
Je ne sais pas si c'est vraiment innovant, mais parce que voilà, on parle par exemple des zones de gratuité, des zones d'échange, des livres mis à disposition. Je pense aux petits charants qui ont fait des frigiliothèques, donc ils ont mis des livres dans des frigos, dans l'espace public, parce que le frigo c'est hermétique et du coup les gens peuvent se servir dans un frigo. Je pense aux travaux qui ont été faits sur la mobilité, par exemple, Orient Express qui est du covoiturage organisé entre habitants. Je pense au Val-de-Quin qui ont fait leur four à pain collectif et qui ont des démarches toujours collectives autour du ramassage des fruits dans la nature, des cueillettes, des choses comme ça, qui travaillent aussi sur l'énergie. Il y a beaucoup d'exemples. Je pense au centre-ville à Valence, parce qu'il n'y a pas que la campagne qui saisit des enjeux. À Valence, par exemple, il y a un centre social qui a mis en place des réparations de vélos et qui met à dispo des vélos réparés pour les gens qui ont des problèmes de mobilité. Et ça a permis quand même à des personnes de retrouver un emploi, d'aller dans des stages. Donc voilà, c'est super intéressant. Je pense à Romans et leur système d'échange tic-tac, où du temps donné, c'est du temps qu'on récupère sur autre chose, sur des activités. Donc voilà, il y a plein d'initiatives. Là, j'en ai donné quelques-unes, mais voilà, il y a, encore une fois, il y en a donc ils ont 40, toutes les structures. Il y a 48 structures agréées, et donc il y a tout autant d'exemples, voire plus, parce qu'il y a souvent plusieurs initiatives dans chaque structure. Donc c'est très riche.
Est-ce que vous avez envie qu'on réfléchisse 2 minutes ensemble à quelles pourraient être ces étapes du changement? Allez, allons-y.
Prise de conscience.
Prise de conscience.
Un état des lieux.
Un état des lieux,
Prise de conscience, ok.
Un manque d'organisation quelque part à un moment donné. Comment on s'organise collectivement, individuellement Je pense qu'il doit y avoir l'organisation dans les étapes.
Il y a une phase de diagnostic en fait. Ouais. Qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qui n'existe pas, quel est le public, quelles sont les problématiques de territoire, enfin voilà.
Alors du coup on va faire ça. On va prendre ensemble, avant d'aller voir et puis d'où ça vient aussi la source, mais on va prendre les morceaux, puis voir un petit peu, d'accord? Donc, tu parles de diag. Ouais. Et puis, on aurait un moment d'organisation.
Et est-ce que pour toutes ces associations et ces structures qui sont en demande d'une subvention particulière parce qu'elles agissent sur les champs qui rentrent dans la notion de développement durable, est-ce qu'il y a des fonds disponibles pour ça? Est-ce qu'il y a des possibilités financières pour ces structures?
Alors pour les structures agréées, oui. Il y a la fameuse subvention partagée consommée autrement qu'on a mis en place depuis 2014, et on a vu en quelques années comment les acteurs se sont saisis de la subvention, parce qu'encore une fois ils ont bien compris que justement elle était axée sur ces projets autour du développement durable, transition écologique, etc., enfin toute la consommation alternative, enfin toutes ces choses là donc on a vu que ça répondait vraiment à ce qu'eux avaient repéré sur leur territoire et à ce qu'ils voulaient mettre en place. Donc cette subvention elle a vraiment permis de mettre en avant, de valoriser vraiment tout ce qui se faisait sur cette dimension-là. Donc il y a cette subvention-là qui existe. Et puis donc on l'a annoncé ce matin. Il y a une bonification aussi. Donc c'est une aide financière supplémentaire à ce que la CAF peut déjà attribuer pour les structures qui ont vraiment pris en compte de façon globale le développement durable dans leur fonctionnement, à la fois dans les actions qu'ils mènent auprès du public, mais aussi dans leur fonctionnement en interne, dans l'organisation de la structure, et puis dans le projet global, le projet social qui est validé, et ensuite en le valorisant auprès des partenaires, auprès des acteurs de territoire. Donc quand les structures ont maîtrisé ces trois axes, l'interne, l'externe et le transversal, ça donne droit à une bonification supplémentaire. Donc la CAF est vraiment présente auprès des structures pour accompagner financièrement et aussi techniquement, avec des journées comme aujourd'hui, les structures agréées qui veulent, voilà, qui veulent se saisir de ces enjeux.
D'accord.
S'il y a un changement, c'est peut-être qu'il y a un problème aussi, non ?
C'est la prise de main aussi.
Est-ce que c'est OK de le rentrer à cet endroit-là ? Tu vois, prise de conscience d'une problématique ?
Par contre, il y a... Vous êtes d'accord ?
Des événements, consensus.
Oui.
Oui, parce qu'avant, pour moi, avant la prise de conscience, il y a quand même pas mal qui ne croient... Enfin, sans parler obligatoirement des anticlimatiques, là, il y a quand même tous ceux qui, ça ne touche pas du tout, quoi, ce problème qu'on parle depuis ce matin. Tous les exemples qu'on a, qu'on essaie de faire dans nos structures, même dans nos structures, on a quand même des gens qui
ne
croient pas du
pas.
Tout, qui a besoin peut-être de faire deux, trois trucs, quoi, qu'on peut toujours...
C'est ça. Donc on peut dissocier la perception, la perception d'un problème, avec une prise de conscience.
On n'est pas tous au même niveau sur ce truc-là.
Des fois, tu le perçois, mais tu ne vas pas jusqu'à conscientiser quelque chose. OK.
La CNAF, la Caisse nationale, est entrée aussi dans une démarche. Elle souhaite vraiment valoriser les initiatives qui se passent localement. Et du coup, nous, on est très regardés au niveau national sur la Drôme parce que ce qu'on fait, c'est apparemment très novateur. Donc, au niveau de la Caisse nationale, en tout cas, la question est prise en compte, est vraiment travaillée. Après, au niveau politique, c'est plus compliqué. Et puis, de toute façon, c'est la difficulté de la politique d'action sociale, c'est que c'est très territorialisé maintenant. Et qu'en gros, ce sont les communes ou les intercos qui ont les compétences. Et du coup, c'est vrai que les structures qui sont agréées, elles sont en relation directe avec les élus locaux et c'est vraiment avec eux que ça se joue. Ce qui met d'ailleurs en difficulté, je pense qu'il y a un intérêt à pouvoir trouver d'autres financements extérieurs autres que CAF et élus. Ça permet d'avoir un peu plus d'indépendance et peut-être de travailler sur d'autres, avec d'autres moyens. Mais c'est vrai que voilà, selon les territoires, on sait qu'il y a des élus qui sont très sensibles à la question et d'autres beaucoup moins. Et malheureusement, ça dépend un peu du territoire où on tombe et de la relation qu'on arrive à créer. Quand j'y dis, c'est surtout les acteurs locaux, ceux qui mènent les assos. La relation qu'eux arrivent à créer avec les élus locaux. Quoi. Et parfois, une relation de confiance, quel que soit le bord politique, hein, là-dessus, je ne mets pas d'étiquette. Il peut y avoir des relations de confiance et du coup, les acteurs ont carte blanche et peuvent développer des choses. Et puis d'autres, où au contraire, bah, voilà, c'est mal perçu, c'est mal vécu et du coup, c'est très compliqué. Mais ce n'est pas toujours que financier, en fait. C'est vraiment voilà, avoir une validation politique, un soutien politique, c'est déjà énorme. Quoi. On sait que voilà, les communes, malheureusement, elles ont des moyens très restreints. Et voilà, c'est souvent des choix politiques, mais voilà, je pense que déjà avoir une reconnaissance, à avoir les élus qui vont dans le même sens que vous, c'est déjà un bon point. Voilà. Sans forcément de financement derrière, quoi.
Il est question aussi, là, dans tout ce qu'on a entendu, de pouvoir agir et être dans l'action sans être forcément dans des rapports pécuniers aussi.
C'est ça.
Oui, je ne sais pas si tu as un mot à dire là-dessus.
Non, mais je pense que tu as raison. On parle beaucoup dans les sciences sociaux et l'espace de vie sociale du développement du pouvoir d'agir. Ça fait partie des grands axes que les structures veulent développer, c'est-à-dire que les habitants se saisissent des problématiques et se mobilisent pour y répondre. Donc effectivement, ça ne peut pas être que financier. On l'a vu tout à l'heure, avec des actions très simples. Hein, je pense aux personnes qui plantaient des arbres fruitiers. Ils sont allés récupérer des invendus, des surplus d'arbres et les planter avec des habitants. Ça ne nécessite aucun financement. Mais par contre, ça nécessite à un moment... une sensibilisation des habitants pour qu'eux viennent le jour J planter un arbre et se mobilisent pour l'entretenir ensuite. Et voilà, donc il y a quand même à un moment donné aussi la volonté des habitants de vouloir changer les choses et donc de trouver de l'énergie pour se mobiliser, pour s'impliquer, pour faire les choses.
Centaines de milliers de personnes, donc à un moment donné on met toute cette énergie pour faire bouger ces centaines de milliers de personnes, mais si on ne fait pas bouger, est-ce que ça sert à quelque chose? Bah oui, en fait. Parce que comme il disait, il faut que ça bouge de partout et que c'est aussi, il y a des choses qu'on ne prévoit pas, c'est-à-dire que de faire bouger un petit peu tout le monde à la base, ben, ça met une pression à des endroits au niveau de corps intermédiaire ou au niveau après voilà, d'entreprises externes, de politiques publiques, etc., ben c'est ça qui va aussi petit à petit amener la société à bouger et du coup à obliger un certain nombre d'acteurs publics ou privés à eux-mêmes se mettre en mouvement. Mais voilà, ça coûte et finalement, peut-être que le territoire de la Biovallée, il est aussi un peu pionnier parce que, comme Jacques Mourican le raconte, c'est que c'est un territoire en fait, qui a été un territoire de lutte, de résistance depuis des siècles et des siècles, en fait.
Ça s'est fait où ces réparations c'est dans la MPT, on avait un petit local à vélo extérieur. Et donc du coup on a aménagé et c'est un des freins qu'on a aussi, c'est quand c'est l'hiver et qu'on c'est compliqué.
Donc il vous avez super pas froid.
C'est couvert.
C'est dédié pour la réparation. Quoi.
C'est dédié, mais comme c'est à l'extérieur et que c'est du métal, c'est un genre sens. De préau, ouais. Et honnêtement, c'est pas adapté.
Est-ce que tu peux me redire qui tu es ?
Bonjour, je m'appelle Mathieu Ferrand, je suis directeur d'une structure jeunesse, un espace de vie sociale, Active Royan, basé à Saint-Jean-en-Royan, sur le territoire du Royan-Vercors.
Est-ce que toi, tu seras en mesure de me dire qu'est-ce que c'est un AVS ? Qu'est-ce que ça regroupe un peu l'acronyme AVS ?
C'est l'animation de la vie sociale. C'est une structure qui est à l'écoute des habitants du territoire, qui peut les accompagner, rebondir sur les idées des habitants, permettre de conscientiser un peu un groupe d'habitants sur des problématiques qu'ils rencontrent tous et les fédérer pour qu'ensemble, ils aient envie de produire une action, d'engager quelque chose pour leur territoire. Quoi.
Qu'est-ce qui t'a animé, toi, à l'idée de venir ici aujourd'hui ?
Ouais, c'est toujours l'idée des petites pierres, c'est ce que chaque structure peut faire à son petit niveau, à son niveau local, pour essayer de faire évoluer les situations et contribuer à un changement de plus grande ampleur. Quoi.
Sur quoi est-ce que vous bossez, vous ?
Nous, on essaie de travailler sur les mobilités douces, notamment avec les jeunes, sur des projets vélos, de sensibilisation à la nature. Nous, on est sur le parc naturel du Vercors, donc c'est permettre aux jeunes d'appréhender leur territoire, la richesse du territoire, de respecter l'environnement et puis d'avoir envie d'y contribuer. Quoi.
Et ça te paraît important d'être en lien avec d'autres espaces AVS ?
Bah, c'est nourrir, pour moi, c'est très important parce que ça permet de se nourrir des uns des autres, des expérimentations qui se font localement sur différents territoires et puis d'apporter une richesse à nos réflexions et puis à nos envies d'agir.
Ça a quel effet pour toi de participer à ces ateliers ? Est-ce que ça t'inspire ? Ça te donne des envies supplémentaires ? Est-ce que ça te conforte un peu dans l'action que tu fais ? Est-ce que tu rencontres des gens qui vont peut-être t'aider sur des choses ?
Ouais, ça renforce nos envies et puis ça donne envie de faire ensemble et puis de contribuer tous ensemble à notre échelle pour faire évoluer les situations et d'impliquer pour nous, les jeunes, du coup, du territoire sur différents projets.
Est-ce qu'il y a des limites ? Tu penses à cette collaboration qui est peut-être difficile à mettre en pratique ?
Les limites, pour moi, ce serait peut-être plus les freins par rapport à des locaux qui sont un peu vétustes, où on porte un projet social avec une dimension développement durable et où les locaux sont parfois un caillou dans la chaussure, avec des consommations énergétiques très importantes, une vétusté globale des locaux qui fait qu'on amène une posture, des valeurs en termes de développement durable et nos locaux où c'est un peu notre faiblesse par rapport à notre projet. Quoi.
Vous, c'est votre cas ?
Ouais, c'est notre cas. Ouais.
Et tu vas aller à quel atelier après, toi ?
Après, sur accompagner le changement.
En fait, si on avait eu cette conversation il y a 20 ans, elle aurait été évidemment extrêmement différente. Il y a 20 ans, l'horizon, c'était l'émancipation. On était convaincus qu'on allait véritablement et durablement changer les choses.
Annabelle Dubois, et je suis directrice du centre social Colucci à Montélimar. Alors on a tout un volet d'activités en lien avec l'apprentissage de la langue française, tout ce qui est aussi accompagnement, accès aux droits. On a un volet loisirs et culture. Après, c'est une structure d'animation de la vie sociale qui est implantée au sein d'un quartier. Donc, il y a aussi toute l'animation et la vie de la cité. Donc on participe, on co-élabore des événements avec d'autres partenaires. Voilà, il y a un réseau, on est inséré dans un réseau partenarial assez dense, assez fort. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On va aussi, on est porteur d'un espace public numérique.
Est-ce que tu serais en mesure de m'expliquer pour toi qu'est-ce que ce serait le développement durable, ou en tout cas, qu'est-ce que ça t'évoque ? Peut-être si c'est une notion qui, à ton avis, comporte certaines limites, ou en tout cas, qu'est-ce que toi, tu mets dedans ?
J'ai trouvé très intéressant ce matin le fait de le renommer planification durable, ou en tous les cas, ça m'intéresse. Mais du coup, on est dans une opérationnalité, on est déjà dans une programmation. C'est peut-être plus concret pour des personnes, ça amène une mise en action plus concrète. Moi, je suis venue parce que, comme je ne suis pas du tout seule, mais à la fois en tant qu'individu et en tant que professionnel, ça m'empêche de dormir. J'ai des enfants, on accueille du public et je vois bien. Et la question qu'on se pose tous, c'est par où la sortie, quoi ? Qu'est-ce qu'on... Je trouve qu'en France, le choix du nucléaire qu'on a fait, puis ce déni-là, on ne sait pas par où prendre les choses. Donc, je ne suis pas venue trouver des réponses, parce que je sais bien que ce n'est pas aussi binaire que ça. Mais en tous les cas, trouver un réseau qui réfléchit à ces questions-là et au moins ne pas se sentir tout seul et essayer de se mettre en route.
C'est-à-dire que se former, se transmettre des informations, peut-être des expériences, c'est ça qui peut nous permettre de trouver des pistes de sortie, justement.
À la fois par l'échange d'expériences, et puis je dirais surtout peut-être l'échange de réflexions collectivement, élaborer des premiers niveaux de réponse et de pouvoir faire des va-et-vient entre les expérimentations de certains et voilà, puis essayer d'avancer parce qu'en attendant, il me semble que c'est mieux. Même quitte à se tromper ou à tâtonner, au moins être dans des tentatives, quoi, voilà.
Passer le cap, changer de cap, du pas de côté. Passer le cap, changer de direction.
Moi, avant d'arriver au changement effectif, il y a des actions, il y a le chemin qu'on fait, c'est-à-dire toutes les petites victoires, les petites étapes qui contribuent à aller vers un changement plus grand, mais t'as plein de petites étapes intermédiaires qui sont à la fois des réalisations, célébrations, tu vois. C'est qu'il y a les deux trucs, c'est on fait des trucs ensemble, on est dans l'action, voilà, c'est des détails, on agit sur quelque chose.
Il y a des cheminements possibles, et comment chacun peut faire un effort aussi pour aller vers ce qui nous semble souhaitable pour le territoire et finalement souhaitable pour tous, parce que le point commun de tous ces gens-là, qu'ils soient agriculteurs, pêcheurs, touristes, c'est qu'à l'année ou à certaines périodes de l'année, ils viennent vivre sur ce territoire et ils ont intérêt à ce que le territoire il reste agréable à vivre. Et du coup, ça fait une motivation commune, mais avec chacun aussi des contradictions et qui viennent s'opposer à cet idéal. On peut raconter que Biovallée, c'est merveilleux et que mettre une petite musique de conte de fées, et oui, ça l'est par rapport à plein d'autres territoires, mais derrière tout ça, ça reste de la négociation entre les différents acteurs, ça reste des efforts de la part de chacun, et on ne va pas tout faire peser sur les uns ou les autres, mais c'est comment chacun on contribue et on arrive à contribuer et à faire progresser cette dimension de transition écologique et sociale à l'échelle du territoire.
Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça illustre ce qu'on disait ce matin, enfin ce que disait avant ce matin, c'est que ça part d'un affect commun autour de la rivière. Il y a bien un objet commun qui lie. Alors après, tu dis qu'effectivement, ils n'ont pas tous les mêmes enjeux autour de cet objet, mais l'objet, il est là, quoi. Il y a la rivière qui lie et qui permet de faire commun sur quelque chose, quoi. Et après, du coup, ça permet de se rencontrer, d'échanger, de défendre chacun son point de vue, mais au moins, il y a la rivière au milieu qui permet d'avoir ce point central d'accroche où tout le monde est d'accord, quoi. Voilà. Et ça rejoint beaucoup ce qu'on disait sur l'affect, sur le côté... d'apprécier son environnement proche. Et
du coup, ils utilisent des produits de maraîchers.
Récupération de produits, et nous, on les fait venir pour le centre de loisirs. Sur toute la journée, ils viennent et les enfants enfin voilà, découvrent des produits pour certains de leurs parents et ils les transforment le matin et puis après mettent en bocaux et même les dégustent l'après-midi. Et fin de journée avec les parents.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel atelier vous venez de suivre et de quoi il était question ?
Donc c'était l'atelier circuit court qui a été présenté par deux MPT, enfin deux animateurs, mais un de la MPT du Petit Charan et l'autre...
social Nini Chaise à Oust, sur Si.
Donc sur la question des circuits courts, donc dans les centres sociaux, les espaces de vie sociaux.
Il y avait plein de producteurs qui étaient en galère avec leurs légumes sur le bras et qui finissent par les jeter en fait.
Alors je ne suis pas sûre que ce soit suffisant parce que c'est une conserverie pour des tonnes de... Ouais. Voilà, là on est dans le petit truc du petit colibri qui fait un petit truc, mais...
On a démarré sur la question des produits ménagers, de savoir comment est-ce qu'on pouvait s'approvisionner en produits ménagers éco-labellisés à côté de chez nous. Donc ils nous ont expliqué les différentes solutions et en fait après la discussion a un peu dérivé sur toutes les initiatives de circuit court qu'on pouvait mobiliser, que ça aille du produit ménager à l'alimentation en passant aussi par le mobilier.
Peut-être qu'on n'est pas une génération où on nous a appris à faire des bocaux avec des légumes moches, je ne sais pas, mais par contre, peut-être que par l'éducation, c'est quelque chose qui peut revenir.
Comment est-ce que les centres sociaux peuvent se mettre en lien avec des recycleries sur le territoire pour s'équiper et aussi pour faire des mallettes de ressources pédagogiques quand ils sont avec des jeunes publics. Donc voilà, c'était essentiellement autour de ça.
Et comment, du coup, enfin, au-delà du circuit court, au-delà du fait de consommer local, de sûrement, enfin, de diminuer par exemple l'empreinte carbone, ce qui a été pas mal souligné aussi par Mathieu, c'était le fait que, bah, avec, quand on va aller chercher un producteur une petite entreprise locale, ça crée du lien. Parfois, on se dit aussi que c'est plus cher, mais au final, ça peut être aussi un gain de temps. C'est ce que là, c'était l'exemple qu'il nous donnait. Voilà, en fait, faire le lien, pas juste se dire il y a un côté écologique, mais en fait, il y a aussi un côté vraiment social et plus humain.
De pérenniser des actions, enfin des initiatives sur le territoire par ce lien, en fait.
Nous, on est en partenariat avec Graines de Cocagne et quand ils ont des surplus, ils nous appellent et ils nous amènent les surplus et on les met dans les halls d'immeubles avec c'est bio, c'est bon, c'est moche, mangez-les. Et ils nous livrent en général le vendredi. Alors des fois, c'est beaucoup. Et donc, c'est du travail d'aller le répartir et voilà. Mais le lundi matin, on a des caisses vides.
Ou alors, vous faites des soirées.
Alors, ils n'ont rien gagné, hein. C'est vrai.
Oui.
Ouais, mais
au moins, c'est pas jeté.
Est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes, vous, ou en tant que qui vous êtes venu ?
Alors moi, je travaille dans le café associatif et culturel Le Cause Toujours, qui est espace de vie sociale depuis février. Donc je suis en même temps sur la partie espace de vie sociale, programmation, et puis au bar, parce que ça reste un café.
Ça.
À Valence, oui.
Et moi aussi, je suis à Valence, je travaille à l'Aglo, de Valence Romand Aglo. Sur des missions agriculture-alimentation, nous on porte un projet alimentaire de territoire dans lequel s'inscrivent justement, s'inscrit ce travail avec les centres sociaux. En fait, c'est de faire le lien entre la production locale et la consommation locale pour se projeter à l'horizon 2050 en se disant comment est-ce qu'on arrive à nourrir tout le monde en tenant compte de l'évolution de la population, du changement climatique et dans un objectif de préservation de l'environnement.
Un tas de petits gestes comme ça, qui sont certes des petits gestes, mais qui ne sont pas les petits gestes du quotidien d'individus isolés les uns et les unes des autres. C'est des petits gestes d'individus qui se relient les unes les uns les autres et qui, petit à petit, font système.
C'était Diambulation. En reportage lors de la journée rencontre des acteurs AVS sur le thème du développement durable à la MJC Centre Social de Tain-l'Hermitage. À bientôt.
Les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Miaou.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Tous les vendredis à 18h, rediffusion le samedi à 10h. Sur Radio Saint-Ferréol 94.2.
Yes.
Les ondes buissonnières.